IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
Le commentaire de
Luc La Liberté, une vision américaine, pas comme les autres.
Alors, chose promise, chose due, Luc, on se reparle de ce fameux sondage COVID, les Américains qui voient l'avenir positivement.
Ben écoute, c'est intéressant. Au moment où chez nous, on semble aussi avoir un vent d'optimisme, c'est-à-dire qu'on a débloqué la vaccination, le taux de gens vaccinés, là, ça progresse de manière intéressante. On semble aussi aller vers une tendance à la baisse pour les cas, les hospitalisations, les décès. Aux États-Unis, j'ai envie de te dire, le sondage qui est sorti hier, en gros, on pourrait le résumer à « vive le vaccin ». Donc, on s'est rabattu là-dessus, nous ici, de notre côté. Et ce que je trouvais intéressant dans ce coup de sonde-là du site de la maison Axios ou du site Axios, c'est de voir que non seulement les gens sont prêts à être vaccinés, non seulement ils sont positifs, pour la première fois depuis longtemps, ils craignent moins un retour à la normale. C'est-à-dire qu'ils se disaient, si on laisse tomber les mesures barrières, on n'est pas prudent, on s'expose en reprenant une vie normale, ce qu'on espère tous éventuellement. Donc, ils ne sont plus que 43% à dire ça représente un risque là, si on laisse tomber les mesures barrières. Et ça va avec, bien sûr, la progression du virus. Mais du vaccin. Et ce qui est intéressant dans la relation au vaccin, c'est que ça rejoint les chiffres publiés hier, rejoignent des témoignages qu'on entend à l'occasion ici, ou des débats qu'on a. Par exemple, plus on vaccine de gens, plus les gens sont en faveur qu'on exige le vaccin pour reprendre des activités. Par exemple, selon ce qu'on apprenait hier, il y a 55% des Américains qui disent, si on retourne au travail, sur le lieu de travail, qu'on met fin au travail à distance ou qu'on en réduit la proportion, ils sont 55% à être prêts à ce qu'on exige une preuve de vaccination. Donc, c'est une autre version du passeport vaccinal, si on veut, mais on exigerait cette preuve.
La preuve digitale de vaccination.
Voilà.
C'est ce qu'on appelle ici, maintenant.
Oui, voilà, c'est vrai. Mon Dieu, tu vois, hein, quelle erreur de langage, quel écart.
C'est parce que c'est le nom de code. Ça fait moins peur que passeport vaccinal, ça fait moins régime totalitaire, ça fait moins Chine, tu sais.
Voilà, donc, mais là-bas, on utilise encore le terme. Fait que tu vois, quand on parle de retour au travail, moi, par exemple, ça fait plus d'un an que je suis enfermé à la maison pour ce que je fais dans les médias, ce que je fais à l'enseignement. Mm-hmm. Donc, si j'étais aux États-Unis, mais il y a 55% des gens qui exigeraient que je montre une preuve comme quoi je suis bel et bien vacciné. Il y a des choses qui surprennent moins, les voyages internationaux, les voyages au pays. Je pense que chez nous, on s'attend à ça aussi. La prochaine fois qu'on va prendre l'avion pour aller à l'étranger, on s'attend à ce qu'on exige une preuve de vaccination quelconque, peu importe la forme que ça va prendre. Donc, aux États-Unis, que ce soit pour un vol international ou un vol à l'intérieur du pays, on est au-dessus de la barre des 60%. Mais on reste au-dessus de la barre des 60% pour d'autres activités pour lesquelles on semblait moins exigeant avant. Par exemple, partir en croisière, aller à l'hôtel, on est à plus de 60% des gens qui disent « faux ».
Les croisières, Luc, mettons, ont été malmenées au début de la pandémie. Est-ce que tu te rappelles toutes ces personnes pognées sur les princesses de ce monde, là, ces méga bateaux pollueurs?
Et mon petit éclat de rire ou mon fou rire, c'était aussi parce que un des aspects des voyages en croisière dont on parle souvent, c'est que quand on est enfermé sur un bateau avec plein de gens pendant longtemps, il y a plus de chances, peu importe de quel virus on parle, qu'il se propage. Donc, il y a des gens qui ont encore des souvenirs plus ou moins agréables de certaines croisières. Donc, bien sûr, on peut comprendre que là, pour reprendre, il y a une compagnie d'ailleurs du Danemark qui a dit, nous, par exemple, on ne retournera pas en Floride tant et aussi longtemps qu'on ne nous garantira pas qu'il y a des vaccins ou que les autorités de la Floride ne permettront pas qu'on vérifie si les gens sont vaccinés ou pas. Donc, ça devient un bras de fer économique aussi. Là. Il y a des enjeux financiers qui sont très importants. Puis, on a vu aussi, pour les amateurs de sport comme moi, par exemple, j'aime bien le baseball, je regardais un match à la télé hier, il y a de plus en plus de gens dans les estrades. C'est pas encore des stades plein. Mais là aussi, les gens sont en faveur. Là, près de 60%, ils disent ben, pour aller voir un match de football, de baseball, de basket, ben, montrons une preuve de vaccination avant d'assister au match. Et c'est comme ça qu'on retrouvera un brin de normalité. Mais ils espèrent donc, après avoir traversé, ça a été encore plus éprouvant, je pense, de leur côté. Ils espèrent, donc ils sont confiants de revenir à une vie normale.
Oui, puis je pense qu'on devrait regarder ce à quoi ils ont accès, peut-être pour s'encourager un peu, là, ceux qui ont encore des hésitations. vaccinal, là, pensez à la carotte, hein, qui nous attend très, très bientôt si on se fie à ce que dit M. Legault hier. Je pense qu'on a tous hâte de retrouver nos vies, de se voir, de souper ensemble. Moi, j'ai même des fantasmes de souper avec ma belle-mère, là. Tu sais, quand c'est rendu là, Luc, là.
Je te relancerai pas, mais ma vie personnelle a fait en sorte que j'ai deux belles-mères et je mangerai avec les deux, là.
Ça, en même temps. Imagine. Oh là là. OK. Les journalistes à Washington qui sont pas contents. Nouvelle obligation pour ceux-ci de la part de la Maison-Blanche. En fait, qui demandent que leur citation soit vérifiée par l'administration Biden. Tu sais, moi, je pense que tu vas m'expliquer, là, mais quand je regarde ça, je me dis, oh là là, ça nous fait penser un peu au gouvernement Harper qui essayait souvent de museler les journalistes qui n'accordaient pas d'entrevue, qui étaient très hands-on en bon français sur ce qui se faisait dans les médias.
Écoute, on s'en est même pas parlé avant, et très sincèrement pour nos auditeurs, avant qu'on débloque notre conversation, c'est exactement ce que j'avais en tête. Le gouvernement Harper, c'était de notre côté la référence pour ce genre de contrôle.
Ouais.
Remettons les choses sur la table un peu pour les auditeurs. On vient de terminer 4 années au plan des communications. Je pense pas exagérer en disant ça a été complètement fou. C'est-à-dire que on a eu des porte-paroles de la Maison-Blanche qui étaient assez colorées, et puis on a eu des porte-paroles de la Maison-Blanche qui, à un moment donné, on cessait de parler aux journalistes. Ou encore, quand on parlait aux journalistes, ben on les insultait ou on rapportait des insultes du président américain qu'on a entendu lui-même apostropher puis enguirlander des journalistes. Donc, on a eu ensuite une traversée du désert, pas de communication du tout. Donc, tout ce qui est journaliste affecté à la couverture de la Maison-Blanche sort d'une période de 4 ans qui n'a rien de commun, qui n'a rien d'équivalent avec ce qu'on a vécu avant dans l'histoire. Et on avait un président qui était, on le sait, hyper actif sur Twitter, c'est-à-dire que sa façon, lui, de contourner les médias, il y a du bon, puis on a vu qu'il y avait du moins bon. Mm. La façon de s'assurer que ce soit son message qui soit entendu et qui passe, ben c'était d'y aller sur Twitter, c'était de gazouiller. Donc, on revient maintenant à des procédures un petit peu plus normales. Ceux qui couvrent la politique américaine, comme moi, ben on n'est pas trop étonnés. Au début, c'était même presque trop poli ou presque trop friendly, amical ou convivial. Mais on sentait qu'il y avait comme un retour à des pratiques un peu plus normales, puis j'ai envie de dire un peu plus saines. Sauf qu'on en a profité du côté de la Maison-Blanche pour remettre de l'avant ce qui était en vigueur sous Barack Obama, mais on ajoute un cran de contrôle de plus sur l'information. Président Biden, on le sait, là, il rencontre pas les journalistes très, très régulièrement, puis on s'assure de filtrer. Il est reconnu d'ailleurs pour ses bourdes. Chaque fois qu'il improvise ou presque, là, il échappe une formulation plus ou moins à droite sans nécessairement que ce soit une bourde. Donc, on a dit on veut exercer un contrôle accru de l'information qui circule à la Maison-Blanche, jusqu'à les journalistes peuvent publier de ce qu'on autorise officiellement. Donc, un journaliste est toujours libre d'écrire ce qu'il veut. Mais ce qu'on a ajouté comme mention maintenant, c'est que si vous vous entretenez avec quelqu'un de la Maison-Blanche puis que vous voulez rapporter le mot à mot de votre entretien, vous pouvez rapporter l'échange. Mais si vous voulez y aller d'une citation pour dire tel représentant ou représentante de la Maison-Blanche, voici ce qu'elle dit sur tel sujet, vous devez noter le mot à mot et le faire parvenir à l'équipe des communications de la Maison-Blanche, qui a le droit de l'accepter, de nuancer, d'apporter des modifications, ou qui a le droit tout simplement de rejeter.
Je comprends que tu veux pas faire partie du club des mal cités, en ce sens où parfois dans la presse écrite, et là avec tout le respect que j'ai pour mes collègues journalistes, des fois il y a des... Bon, je vais encore m'exprimer en très bon québécois, là. Il y a des petits glitchs, hein, Luc? Quiconque a accordé une entrevue dans un journal ou dans un magazine en a fait les frais. C'est des questions sensibles comme la politique américaine, qu'on est en crise mondiale, je peux comprendre qu'on soit plus pointueux, mais de pouvoir rétro-pédaler, hein, réparer les pots cassés ou carrément refuser, je trouve que ça va très, très loin, trop loin.
Ben voilà, et ça place les journalistes, l'équipe qui est de l'équipe des médias complète, là, qui est à la maison.
Mais alors, ils sont à leur merci. Je veux dire, si tu plais pas, Monsieur Biden, t'auras plus accès.
Ben oui, puis on se demande aussi finalement, parce que on a relayé un article avec Frédéric là, qui est à la recherche sur l'émission, puis avec qui j'échange régulièrement. Ce qu'on dit carrément, c'est qu'il y a des journalistes qui disent on devrait faire une mutinerie. Grosso modo, on bloque les communications. Mais est-ce qu'après un retour à une relation un peu plus saine avec les médias, est-ce qu'après avoir échappé à ces 4 années-là où on était sur les charbons ardents constamment, ce qu'on soupèse, grosso modo, c'est est-ce que c'est le temps de faire ça, puis de quoi on se prive? Jusqu'où on peut entretenir entretenir un bras de fer. Mais il y a, je pense, c'est clair, puis ta réaction le montre bien aussi, c'était la mienne, il y a exagération. À partir du moment où un journaliste ne peut plus citer librement donc quelqu'un dans un entretien, puis ce sera à la Maison-Blanche de dire à la suite après ça, ben écoutez, ça a été mal cité ou
puis attends,
c'est pas
là, excuse-moi, les journalistes qui travaillent dans des grands médias ont un code de déontologie, enregistrent les entrevues, je veux dire, il y a des traces de tout ça, là, le club des mal cités, faudrait pas le sortir à toutes les sauces non plus, là.
Ben voilà, mais je pense qu'on essaie, ce qu'on essaie de faire du côté de la Maison-Blanche, c'est de voir justement quelle marge de manœuvre on peut encore utiliser. Et moi, je me souviens très bien que même si Barack Obama était reconnu pour sa politesse, puis pour ses questions, ses réponses longues, M. Obama, on lui a reproché ça aussi à de nombreuses occasions. Le contrôle excessif ou maladif, là, on pourrait utiliser plein de qualificatifs, mais le contrôle un brin maladif de l'information. À l'ère des réseaux sociaux, tout le monde sait très bien qu'on va faire très attention à ça. M. Legault vit constamment avec ça, puis M. Arruda aussi, notre ministre de la Santé également. Mais laissons les journalistes travailler. Je pense que là, on est dans un excès. On verra jusqu'où les journalistes ensuite sont capables de négocier un retour à une pratique journalistique que je trouve plus saine, plus libre.
Oui, c'est comme si il était mis à l'épreuve en ce moment, et c'est ça que j'aime pas. On termine avec cette star de l'émission Saturday Night Live qui se fait accuser d'appropriation culturelle. Et question subsidiaire, est-ce que c'est une tempête dans un verre d'eau?
Ben écoute, si je regarde les réactions sur les réseaux sociaux et dans les médias américains, j'ai choisi d'en parler aujourd'hui parce que mine de rien, il n'est pas juste des médias qui s'intéressent à ces questions-là.
C'est en train de devenir une vraie affaire.
Ben voilà, c'est en train de devenir une vraie affaire. Puis le Michael Che, qui co-anime de Weekend Update et qui est rédacteur des sketchs pour Saturday Night Live, c'est lui qui est au cœur de ça.
Okay.
Et il a même retiré son premier tweet ou son premier gazouille au moment de la controverse. Il l'a même retiré, voyant à quel point le sujet était chaud. Grosso modo, pour nos auditeurs, qu'a-t-il fait? Il veut s'amuser, Michael Che. On a invité Elon Musk derrière en fin de semaine. Donc, on organise
un humour bizarre.
Oui, un peu.
Oui, c'était oui. Il a dit après qu'il y avait un trouble du spectre, qu'il y avait un trouble du spectre de l'autisme qui était Asperger, puis qui faisait parfois un humour très weird à cause de tout ça. Puis j'étais comme, OK, ceci explique peut-être cela.
Ben, ça correspond à ce que j'ai vu en fin de semaine.
OK, bon, on est en même place. Parfait. Voilà. Poursuivez.
Donc, Michael Che dit, je fais un sketch dans lequel, finalement, il y a Elon Musk qui est là, il est dans un hôpital, mais les acteurs, les comédiens représentent des jeunes de la génération Z et ils se mettent à se relancer en joual ou en slang, si tu veux. Et on se moque un peu du langage qu'on utilise maintenant du côté de cette génération-là sur TikTok, sur Twitter, sur Facebook, etc. Et Michael Che dit, il y a eu des mauvaises réactions à ce sketch-là. Mon sketch était mauvais, ça m'arrive. Hein, on s'est planté, on s'essuie puis on recommence. Et c'était pas ça le problème. Ce sont des gens de la communauté noire. Michael Che, c'est un animateur noir, quelqu'un de très engagé dans sa communauté, quelqu'un qui craint pas d'aborder la question raciale. Et là, ce sont des noirs qui disent, écoute, les termes que tu utilises, là, tu les appropries ou tu permets à n'importe qui de les dire, alors que c'est un slang ou une forme de joual, si on veut, qui a été développé par la communauté noire. Alors, ce sont des noirs qui reprochent à un rédacteur noir de ne pas avoir souligné l'origine des mots utilisés dans le sketch.
Mais le sketch était joué par des Blancs, finalement, c'est tout ça?
Il y avait des Blancs, il y avait un Asiatique, il y avait un Noir, puis, bien sûr, Elon Musk qui était en vedette.
Moi, je me prononcerai pas parce que je ne l'ai pas vu, le sketch question.
Moi, ce que je trouve, c'est on est rendu à un moment là, quand on parle d'appropriation. Puis je le dis là, c'est très important de respecter aussi. Je peux pas dire à un noir comment il se sent. Je suis un blanc. Je peux pas lui dire ce qu'est la charge émotive qu'il ressent. Mais assurément, on est rendu à un moment où il va falloir dialoguer. Si on en est à décortiquer dans la langue tous les emprunts qui ont été faits à la langue pour s'assurer de respecter l'ensemble des différences individuelles, il faut qu'on s'assoie à un moment donné puis qu'on en discute. Et ça semble pas être le cas. Autant j'ai déploré, puis on l'a dit, le cas de l'extrême droite aux États-Unis. Autant ça fait partie, ce genre de réaction-là, de la mouvance woke, mais des excès de certains de ceux qu'on appelle des woke. Donc, si pour échanger dans le langage populaire, il faut se donner un cours d'histoire à chaque fois pour se rappeler l'origine des termes, avec la complexité de l'évolution du français puis de l'anglais, on n'est pas sorti de l'auberge.
Ouais, puis quand il y a des réactions comme celles qui semblent se produire en ce moment, c'est assez à chaud, puis des réactions qui deviennent aussi très, très nombreuses sur les médias sociaux. À un moment donné, il faut se demander de quelle façon on peut aborder ces sujets-là, justement, pour le rétablir, le dialogue. Parce que moi l'impression que j'ai en ce moment, puis comme je te dis, je l'ai pas vu, là, que le sketch, là, sortons de cette affaire-là, c'est de dire, c'est pas en s'en voyant promener et en pensant qu'on est détenteur de la vérité d'un bord comme de l'autre qu'on va finir par avoir un espace public qui est sain puis avoir justement un espace public qui est respectueux pour les gens qui se disent lésés.
Puis je souligne au passage, moi, je voulais absolument relayer cette histoire-là, parce qu'un volet de l'histoire qui me plaisait, c'est-à-dire où je vois l'importance du dialogue ou de la communication, oui, quand on en est à s'empêcher d'utiliser des termes, c'est que cette fois-là, on a un noir qui, visiblement, en plus, adhère à la cause. C'est quelqu'un qui est un porte-parole, c'est quelqu'un qui lui-même a été victime.
Oui, mais personne n'est à l'abri d'une erreur ou d'une dérive, voilà. Peu importe la cause.
Voilà, donc je me disais, si un sujet est aussi sensible que ça au sein même de la communauté noire, comment peut-on en parler ou se laisser un espace de discussion dans un espace plus large?
Là, on est deux blancs qui en parlons, puis déjà là, je me sens pas bien. Fait que là, à demain! Bye-bye!
Salut!